Camarades et amis, bonjour et bienvenue à la fête annuelle de lutte ouvrière à Beauvais. Cette année, notre fête marque à Beauvais le lancement de notre campagne pour les élections européennes. Comme vous le savez, notre liste est conduite par nos camarades Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier. Et j'ai l'honneur de figurer sur cette liste. Donc, en allant sur le site de Lutte ouvrière, chacun pourra accéder à la présentation de nos camarades, des idées et du programme, résumé dans la formule « Contre le grand capital, le camp des travailleurs », que nous défendrons à cette occasion et que Nathalie développera dans un instant. Pour mener une campagne électorale, il faut des convictions. Pour mener une campagne électorale, il faut des temps forts, il faut des bras, il faut aussi de l'argent. Les convictions, nous n'en manquons pas. Et donc, pour ce qui est pour les temps forts, il faut retenir ces dates. Donc, le vendredi 29 mars, meeting national à Paris. Le lendemain, samedi 30 mars, meeting départemental à Creil, dans le cadre de la fête de lutte ouvrière, avec Nathalie Arthaud et Roland Spirko. Et point d'ordre de la campagne, meeting national, de nouveau à Paris, le vendredi 10 mai. Et pour le reste, une feuille de souscription vous attend sur la table à l'entrée, sur la table de presse. Vous pourrez également proposer votre aide, on a besoin de bras, et pour participer à cette campagne. Et maintenant, je vais passer la parole à notre camarade Nathalie Arthaud.
Merci. Bonjour à tous, donc, travailleuses, travailleurs, chers amis et chers camarades. Ça peut paraître un peu loin du sujet, mais pour expliquer notre démarche aux élections européennes, je vais commencer par parler de l'Algérie. Des mobilisations énormes qu'il y a aujourd'hui en Algérie. On ne peut que saluer le courage dont font preuve ces centaines de milliers de femmes et d'hommes qui osent aujourd'hui descendre dans la rue. Ils le font malgré les interdictions de manifester et puis malgré le chantage du régime à la guerre civile. Alors oui, ces mobilisations sont importantes pour nous. Elles secouent le pouvoir et puis elles ouvrent bien des perspectives. Mais cela peut aussi aller dans un tas de directions, y compris des très mauvaises pour les travailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des millions de femmes et d'hommes dans la rue prêts à faire beaucoup de sacrifices, que les choses sont forcément gagnées. On a l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, qui montre que les impasses sont diverses et variées. Alors nous espérons, nous bien sûr, que les revendications du peuple algérien n'en resteront pas aux revendications démocratiques, et qu'elles porteront aussi les intérêts des travailleurs. Nous souhaitons que ces mobilisations fassent avancer les intérêts du camp des travailleurs en Algérie. Chômage, bas salaire, le SMIC, là-bas, il est à 130 euros. Cherté de la vie, précarité, absence de services publics, tous les problèmes que l'on peut connaître ici, eh bien, ils sévissent là-bas, de façon encore plus brutale. Et puis, là-bas, comme ici, les intérêts des travailleurs ne peuvent être défendus que par les travailleurs eux-mêmes. Alors, la question qui se pose dans les événements d'Algérie, c'est comment les travailleurs vont-ils intervenir politiquement? Ils forment le gros des manifestants. Quelles revendications vont-ils mettre en avant? Quels objectifs vont-ils se fixer? Est-ce qu'ils en resteront à la dénonciation du cinquième mandat de Bouteflika? Si c'est le cas, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'ils mettront en avant des revendications susceptibles de changer leur sort, de contester ceux qui se mettent l'argent du pétrole dans la poche? Est-ce qu'ils sauront s'organiser pour défendre leurs objectifs de travailleurs? Eh bien, tout ça, On ne peut que le souhaiter. Mais on sait que le combat des travailleurs est difficile. Et il l'est encore plus lorsque les travailleurs ne sont pas préparés politiquement et lorsqu'il n'y a pas de parti qui peut les aider à mener leur combat sur le terrain de classe. Et ce que je viens de dire là, eh bien cela vaut pour ceux qui se révoltent en Algérie et ça vaut aussi pour ceux qui se révoltent ici. À une autre échelle, les travailleurs qui se sont engagés dans le mouvement des Gilets jaunes ont été confrontés aux mêmes difficultés. Le mouvement des Gilets jaunes a démontré la capacité de révolte des classes populaires. Il a montré que même des femmes et des hommes qui ne s'étaient jamais battus de leur vie, n'avaient jamais fait grève, ne s'étaient jamais syndiqués, eh bien qu'ils peuvent se révolter, s'organiser et créer des liens de solidarité. Et puis, même si beaucoup ont raccroché leur gilet, eh bien c'est un mouvement qui a fait preuve d'une sacrée détermination. Puisqu'après 3 mois et demi de mobilisation, eh bien, il y a encore des manifestations, et ce malgré les violences des forces de l'ordre et l'opération d'enfumage du grand débat national. Mais il peut y avoir une forte colère sociale. Les ouvriers, les chômeurs, les précaires, les retraités, les travailleurs en général peuvent y jouer un rôle important, et ils peuvent aussi ne pas trouver le chemin pour défendre réellement leurs intérêts de travailleurs. Je dis ça parce que les Gilets jaunes ont posé les questions essentielles pour le monde du travail. Le problème du pouvoir d'achat, des petites retraites, l'injustice sociale. Mais ils n'y ont pas réellement répondu. Ils ont dénoncé Macron, mais pas la classe capitaliste, qui est pourtant la première responsable. Si les salaires n'augmentent pas, si la précarité, elle, se généralise, si les retraités sont condamnés à des pensions de misère, c'est d'abord de la responsabilité de la classe capitaliste. Les usines qui ferment aujourd'hui, Nestlé ici, Ford, Ascoval, Fonderie du Poitou qui sont menacées, ce n'est pas Macron qui les ferme, c'est le grand patronat. Alors il ne suffit pas de mettre en cause Macron et sa politique. Il faut aussi viser la classe sociale qu'il représente et le système capitaliste qu'il défend. Alors, les événements qui se passent en Algérie et puis ce mouvement des Gilets jaunes, eh bien, ils nous confortent. Ils nous confortent dans notre objectif de construire un parti qui représente les intérêts des travailleurs et qui les aide à se retrouver dans ce genre de situation où il y a des révoltes sociales et où il y a des dizaines, des centaines de milliers de femmes et d'hommes dans la rue qui défendent, y compris des idées et des objectifs différents. Il faut un parti qui aide les travailleurs à avoir une politique et des objectifs susceptibles de changer leur rapport de force avec la bourgeoisie et qui les aide à s'organiser. Un parti qui tout simplement apporte les réponses aux questions que les travailleurs se posent. Comment stopper la chute du pouvoir d'achat? Comment faire pour que toutes les richesses ne s'accumulent pas à un pôle? Eh bien, ces réponses, pour nous, elles s'articulent autour de trois objectifs. C'est d'abord un emploi pour tous. C'est l'augmentation du salaire et leur indexation sur les prix. Et puis c'est aussi le contrôle des grands groupes industriels et financiers. Je vais les prendre un à un. Mais cette question du pouvoir d'achat, elle a été effectivement posée par le mouvement des Gilets jaunes. Mais elle n'a été vue que sous le point de vue des taxes. C'est vrai que plus on paye de taxes, moins on a de pouvoir d'achat. Ça fait évidemment partie du pouvoir d'achat. Mais quand même, le pouvoir d'achat, c'est d'abord et avant tout son salaire, la pension de retraite, les allocations qu'on touche. Et puis, c'est l'autre côté, c'est les prix. Qui fixe d'un côté les salaires, qui fixe les prix? Eh bien, c'est la classe capitaliste. Alors, si on veut augmenter effectivement notre pouvoir d'achat, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de revendiquer auprès du grand patronat des augmentations de salaire et de le forcer à ce que ces augmentations et que ce salaire soient indexés sur les prix. Parce que c'est une chose d'augmenter les salaires. Si de l'autre côté le gaz augmente, et je sais qu'il a beaucoup augmenté et que pour certains la facture, elle a explosé cette année, eh bien qu'est-ce qu'on gagne? Donc la revendication d'augmenter les salaires et de les indexer sur les prix, et c'est vrai pour les pensions de retraite, et pour nous, une des revendications essentielles qu'il faut que les travailleurs aient dans la tête. Deuxième revendication, c'est bien sûr l'emploi. On ne peut pas accepter que 6 millions de femmes et d'hommes ne puissent même pas avoir le droit de gagner leur vie en travaillant. On ne peut pas l'accepter. Il faut un emploi pour tous. Comment cela peut-il être possible? D'abord, bien sûr, en stoppant cette hémorragie dans toutes les grandes entreprises, parce que toutes les grandes entreprises, y compris celles qui font des bénéfices, continuent de supprimer des emplois, et puis en résorbant ce chômage de masse, ce qui veut dire créer des emplois, ce qui veut dire répartir le travail entre tous. Là encore, il y a une folie qui consiste à surcharger de travail ceux qui ont un emploi, à les condamner à des horaires délirants, à des cadences insupportables, et puis à laisser les autres crever au chômage. Nous, les travailleurs, on a une revendication qui doit nous unir. C'est celle de répartir le travail entre tous. Et la troisième. Le troisième objectif qu'on veut populariser dans la tête des travailleurs, c'est celui du contrôle. Le contrôle de l'argent qui s'accumule dans les grands groupes industriels et financiers. Dans ces entreprises, on y passe une partie essentielle de notre vie. On y donne le meilleur de soi-même, ses compétences, son énergie. Et parfois même, on est forcé d'y laisser sa santé au boulot. Les heures de travail que nous passons dans les entreprises, c'est une sorte d'impôt en nature qu'on paye à la société. Ou par l'argent qu'on contribue à fabriquer dans toutes ces entreprises. Ou par le fruit de notre travail. On travaille toute l'année, de façon acharnée, sous pression, pour qu'au final, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas de quoi augmenter les salaires, pour qu'au final, ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas embaucher l'apprenti, l'intérimaire qui est là depuis des années dans l'entreprise. Donc il faut qu'on contrôle, en réalité, où va l'argent, où il part. Hein ? Quand on voit aujourd'hui qu'on est condamné de plus en plus à une vie de misère, et puis qu'un pôle d'argent dégouline littéralement, chaque année, on a les mêmes chiffres, plus de millionnaires, plus de milliardaires, et encore plus riches. Cet écart, ce fossé qui se creuse, comment s'explique-t-il ? Eh bien parce que voilà, ce système, c'est une immense pompe aspirante, hein, qui aspire les richesses à un pôle, qui aspire le fruit du travail de tous à un pôle. Eh bien, pour le voir, pour le mesurer, oui, il faut mettre notre nez dans les comptes des grands groupes industriels et financiers. Il faut revendiquer ce contrôle. Alors, pour nous, ces trois objectifs, eh bien, ce sont des objectifs de lutte. Ce doit être des points de repère pour les travailleurs lorsque justement ils se lancent dans le combat. Et les populariser maintenant, en discuter, les mettre dans la conscience des travailleurs, eh bien c'est les préparer au combat que nous devrons mener. Et ce sont ces objectifs, c'est ce programme de lutte que nous mettrons en avant justement dans les élections européennes. Nous nous attacherons dans cette campagne européenne, comme dans celles qui les ont précédées, à faire progresser la conscience de classe dans le monde du travail. Cette conscience, justement, qui ne s'est exprimée mais que de façon partielle et confuse dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous attacherons à faire progresser cette conscience de classe. Et cette conscience de classe, ce n'est pas simplement réclamer un meilleur partage des richesses. C'est être conscient que la bourgeoisie, elle ne partage pas. Et que les travailleurs, eh bien, ils ont à la combattre. La conscience de classe, c'est être fier d'appartenir au monde du travail, parce que nous faisons tourner toute la société. Et la conscience de classe, eh bien, c'est être convaincu que les travailleurs sont porteurs d'une autre société, d'une autre économie. Une société sans exploitation, sans classe sociale, une société communiste. Alors, aujourd'hui, tous les regards sont tournés contre Macron. C'est bien naturel, il est président de la République et puis il porte une responsabilité dans le recul des conditions de vie, la classe ouvrière, c'est sûr. Mais toute la société est écrasée par le rouleau compresseur du grand capital. Et on ne résoudra pas nos problèmes seulement en changeant de président de la République. Ça fait des décennies que l'on vote pour changer de président, et que rien ne change. On a toujours droit à la même politique anti-ouvrière, parce que gouverner dans le cadre de la domination de ces grands groupes industriels et financiers, eh ben, c'est forcément se soumettre à leurs lois. La minorité capitaliste, elle monopolise dans ses mains une masse de capitaux et elle détient plus de pouvoir économique que les présidents ne peuvent en avoir à la tête de l'État. C'est cette minorité de grands bourgeois non élus qui gouverne les grands groupes industriels et financiers, qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie. Ce ne sont pas les gouvernements. C'est le pouvoir des actionnaires de Ford, de PSA, de Nestlé, de fermer une usine. C'est celui de Sanofi ou de Renault, de gaver leurs actionnaires, de bloquer les salaires. C'est le pouvoir de Vinci, de transformer les autoroutes en caisses enregistreuses. Ou encore, c'est le pouvoir des banques, de transformer leurs bureaux en salles de casino. Quant à croire qu'il suffirait d'organiser des référendums d'initiative citoyenne, vous savez, les fameux RIC, et puis d'avoir de nouvelles lois sociales pour combattre la rapacité des capitalistes, ça aussi c'est encore un leurre. Quand les lois qui encadrent le fonctionnement des entreprises gênent un tant soit peu le patronat, il a mille et un moyens de les contourner ou de les ignorer. Combien de patrons ne payent pas les heures supplémentaires de leurs salariés? Combien de travailleurs enchaînent des horaires délirants en toute illégalité? Et cela se fait souvent parce que les travailleurs eux-mêmes n'osent pas revendiquer, ben par peur de perdre leur emploi. Parce qu'il y a les lois sociales et puis il y a la réalité sociale de ce rapport de force où les travailleurs, eh bien, ils sont dépendants de leur employeur. Alors non, on n'arrêtera pas les méfaits du grand capital en multipliant les appels au vote et les lois. C'est une question de rapport de force entre les travailleurs et le grand patronat. Et cela dépend de la capacité des travailleurs d'imposer leurs intérêts vitaux, essentiels. Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé la volonté de mieux contrôler ce que fait l'État de l'argent de nos impôts. C'est légitime. Mais, encore une fois, contrôler ce que fait la classe capitaliste des richesses créées par l'ensemble du monde du travail l'est tout autant. On revendique que le budget de l'État et l'argent public soient dépensés le plus utilement possible. Mais pourquoi ne pas en faire autant de l'argent de ces grandes entreprises? L'utilisation de ces capitaux, qui sont concentrés dans les mains de quelques-uns, échappe à la société, au prétexte qu'ils sont propriété privée. Il est interdit de contrôler, du coup, l'usage que la classe capitaliste fait de cet argent. Il est interdit de réquisitionner ses capitaux, quand bien même la société en aurait un besoin urgent pour investir dans le logement, les transports, la santé ou l'éducation. Et ce, alors même qu'ils sont créés par le travail collectif de dizaines de milliers de travailleurs, parce que c'est nous qui les suons, ces capitaux. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. Le pouvoir de la bourgeoisie vient de ce qu'elle concentre entre ses mains les capitaux. Cela lui donne le droit de décider seul de choix engageant toute la société. Et bien pour lui enlever son pouvoir de nuisance, il faut lui enlever ses capitaux, c'est-à-dire l'exproprier. La véritable démocratie et le pouvoir du peuple n'auront de sens qu'une fois cette minorité détrônée, quand toute la population pourra donner son avis et surtout participer aux décisions sur la façon de gérer collectivement les grandes entreprises qui dominent l'économie. Il y a un tabou à faire tomber. C'est le tabou du capitalisme et de la propriété privée. On nous met dans la tête, depuis toujours, que le capitalisme, c'est d'abord la liberté, parce qu'il y a cette foutue propriété privée. Je dis foutue propriété privée parce que la propriété privée, c'est d'abord celle des plus riches. Parce que quelle est la propriété privée des travailleurs? Où est la liberté pour les 6 millions d'entre nous qui sont condamnés au chômage? Pour ceux dont les salaires sont tellement bas qu'ils ne permettent même pas de régler toutes les factures? L'écrasante majorité des travailleurs ne choisissent ni leur métier, ni leur entreprise. Et une fois embauchés, ils obéissent aux ordres, aux horaires, au rythme imposé. Et la propriété privée du monde du travail, eh ben, elle se réduit à bien peu de choses. Nombre de salariés, d'employés sont dans l'incapacité de s'acheter ne serait-ce qu'une voiture correcte. Et pour acheter un appartement ou une petite maison, eh bien, la plupart d'entre eux sont forcés de s'éloigner des villes et de leur lieu de travail. Et dès qu'il y a un licenciement ou un accident de la vie, comme on dit, eh bien, on perd tout. Et combien de patrons, petits et moyens, ont fini ruinés ou avalés par les plus gros? Derrière ce principe prétendument sacré, la propriété privée, il y a surtout le droit de la bourgeoisie d'exproprier tout le monde à son profit. Le respect de la propriété privée fait partie des chaînes que les travailleurs doivent briser. Il faut avoir la perspective d'exproprier les actionnaires, la bourgeoisie des grandes entreprises, et de prendre nous-mêmes, les travailleurs, le pouvoir sur l'économie et sur toute la société. Marx avait une formule pour l'exprimer. Il disait: il faut exproprier les expropriateurs, c'est plus vrai que jamais. Alors cette conscience révolutionnaire, elle est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. L'expropriation du grand capital et la collectivisation des grands moyens de production peuvent paraître éloignées et décalées par rapport aux revendications vitales que les petits gens mettent en avant. Un salaire, le droit de se faire soigner, d'avoir un logement, un emploi. En réalité, les deux sont indissociables. Ces revendications élémentaires et la nécessité de renverser la bourgeoisie sont indissociables parce que c'est la crise. Parce que le capitalisme est de plus en plus parasitaire. Depuis 1971, en réalité, on est en crise permanente. Parce que le capitalisme n'a plus de perspective de développement de la production. Les marchés sont saturés, la surproduction est généralisée et elle condamne l'économie au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a pas 36 solutions. C'est participer à la guerre commerciale en se montrant encore plus féroce que ses concurrents pour leur piquer des parts de marché. Et concrètement, ça veut dire imposer au nom de la compétitivité des suppressions d'emplois, l'écrasement des salaires, l'aggravation des cadences et la flexibilité. Et ça, c'est vrai pour le public, c'est vrai aussi pour le public, hein, parce que c'est vrai pour la poste, c'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les EHPAD, c'est vrai pour toutes les structures publiques que l'État ne peut plus financer correctement parce qu'il consacre de plus en plus d'argent à soutenir le grand capital. Et puis, cette lutte de classe qui s'abat sur nous de plus en plus brutalement du fait de la crise, elle se double de la menace permanente d'un nouveau krach économique. Parce que les milliards que la bourgeoisie n'investit plus dans la production, eh bien, elle les met dans la finance et dans la spéculation. Autrement dit, le capitalisme nous condamne à la crise et à des attaques de plus en plus dures de la part de la bourgeoisie. Et les victimes, ce ne sont pas d'ailleurs seulement les ouvriers ou les salariés, ce sont aussi nombre de petits patrons, de commerçants, d'artisans, qui tout en travaillant d'arrache-pied, ne vivent pas mieux que la moyenne des salariés. Dans ce contexte, où la bourgeoisie est donc à l'offensive, pour reprendre tous les droits aux travailleurs, aucune revendication un tant soit peu sérieuse des salariés ne sera concédée facilement. Hein. Toute revendication donnera lieu à un combat difficile et âpre avec la bourgeoisie. Et lorsque les travailleurs se battront vraiment pour leurs intérêts de classe, eh bien ils feront leur expérience. Et ils réaliseront que tant que la bourgeoisie tient les rênes des grands groupes industriels et financiers, eh bien elle les baladera. Et ils réaliseront que le seul moyen d'avancer réellement, c'est de contrôler ce qui se passe dans les entreprises. C'est de savoir quelles sont réellement les marges bénéficiaires, où passent les profits, combien sont investis, combien sont versés aux actionnaires. La question du pouvoir, du contrôle et de l'expropriation de la bourgeoisie se poseront comme elles se sont toujours posées lors des grandes luttes sociales. Et c'est alors que la classe ouvrière prendra conscience de cette vérité que si elle veut vivre, eh bien le capitalisme doit mourir. Ça, ce sont les communistes des années 20 qui le disaient. La domination de la classe capitaliste nous mène à la catastrophe économique, mais aussi sociale et écologique. Parce qu'on peut parler de l'écologie, d'ailleurs on en parle tous les jours, on n'en a jamais autant parlé, et pourtant il n'y a pas le début d'une solution. Et politiquement, c'est la même impasse. La crise du capitalisme, les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà mené à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère s'entassent. dans des camps infâmes où sont traqués et condamnés à errer de pays en pays, quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale, parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de cette même extrême droite. Les Le Pen, les Salvini, Orban et compagnie disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre le pied en Europe. Mais la réalité, c'est qu'ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Hongrie, par exemple, Orban vient d'autoriser les patrons d'exiger de ses salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, payables jusqu'à 3 ans plus tard. À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre « travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Il a opposé le drapeau rouge et l'international au drapeau bleu, blanc, rouge et à la Marseillaise. Eh bien, il faut renouer avec ces valeurs du mouvement ouvrier. Et puis, puisque l'on parle d'Europe, je voudrais rajouter que ces premiers militants socialistes puis communistes n'ont jamais regretté la mondialisation capitaliste. Ils constataient, comme Marx l'avait fait, alors déjà en 1848, eh bien, ils constataient que le capitalisme avait développé une économie qui débordait les frontières nationales et avait besoin du monde pour se développer. Et ils en voyaient un avantage majeur, celui d'avoir fait naître des ouvriers dans tous les pays. Depuis lors, l'histoire, l'économie, la vie sociale des différents pays européens se sont entremêlées encore plus étroitement. Les entreprises se déploient à l'échelle européenne et même mondiale. La classe ouvrière de tous les pays, et la classe ouvrière de France, est elle-même devenue internationale au fil des migrations. Et il suffit de quelques heures d'avion pour traverser 2, 3, 4 frontières en Europe. Autant dire que la division de l'Europe, qui n'est en plus qu'un bout d'un continent, est complètement dépassée par la réalité. Et pour nous, qui affirmons fièrement que notre pays, c'est la terre et notre patrie, l'humanité, eh bien oui, l'unification de l'Europe serait un véritable progrès. Mais ce progrès, il ne peut pas venir de la bourgeoisie, il ne viendra pas de la bourgeoisie. Mais si, à l'issue d'une révolution, les travailleurs parviennent au pouvoir, eh bien eux, ils la réaliseront, cette véritable unification de l'Europe. Avec notre liste, les travailleurs pourront affirmer un programme qui corresponde à leurs intérêts sans se laisser détourner par tous les faux débats qui peuvent naître autour des questions européennes. Certes, l'Europe des capitalistes n'est pas belle à voir. Rien n'a été fait pour faire progresser le sort des travailleurs et des plus exploités d'Europe. L'Union européenne n'a pas fait la moindre pression sur les pays les plus réactionnaires pour y faire progresser même les droits de la femme, ne serait-ce que le droit élémentaire à l'avortement. Quant à la solidarité européenne, elle est un mot creux. Il suffit de se souvenir de la façon dont la Grèce a été traitée en 2011, et puis de voir aujourd'hui les pays européens se repasser les migrants qui arrivent sur les côtes, pour comprendre que l'Union européenne n'est pas cet espace de solidarité que certains nous vendent. Même sur une revendication aussi qui semble aussi évidente que celle de taxer les fameux GAFAM, vous savez, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eh bien même là-dessus, l'Union européenne n'a pas été capable de s'entendre. Alors, c'est sûr, cette Union européenne, elle n'a rien pour plaire aux travailleurs. Mais est-ce que les États nationaux, est-ce que la police française a quelque chose pour plaire aux travailleurs? Est-ce que la Banque de France a quelque chose pour plaire aux travailleurs? Non plus. L'Union européenne, comme les institutions françaises, sont des instruments politiques construits par la bourgeoisie. Et elle s'en sert, bien sûr, comme des machines à opprimer les plus faibles. Mais elle peut aussi en changer. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec le Brexit, on voit que l'Europe est en train de reculer. Alors notre objectif, ce n'est pas de dénoncer contre telle ou telle institution de la bourgeoisie. Encore une fois, notre objectif, c'est d'abattre la domination du grand capital. Et dans cette élection, il ne faut surtout pas que les travailleurs se laissent piégés par le jeu des partis bourgeois. Macron d'un côté et Le Pen de l'autre veulent utiliser cette campagne pour faire croire qu'ils représentent des options complètement opposées, qu'ils ont une vision complètement différente de l'Union européenne, de ce qu'il faut faire, etc. Bon, en fait, leur opposition est complètement superficielle, que ce soit d'ailleurs en matière d'Europe ou en matière d'immigration. En fait, l'Union européenne, c'est un sujet sur lequel ils peuvent très facilement retourner leur veste, comme vient de le faire d'ailleurs Le Pen, en renonçant à la sortie de l'euro. Les travailleurs se sont fait piéger trop longtemps par le clivage gauche-droite. Il ne faut pas qu'ils tombent dans un nouveau jeu de dupes qui consisterait à devoir choisir entre des pro-Europe et des anti-Europe. Voter pour les uns ou pour les autres, c'est voter pour nos exploiteurs. Le monde du travail n'a pas intérêt à se diviser en choisissant entre différents représentants de la bourgeoisie. Dans cette élection, il faut affirmer que les travailleurs n'ont qu'un seul intérêt à défendre, c'est leur peau, leurs conditions de travailleurs. Il faut mettre en avant les revendications élémentaires du camp des travailleurs contre le camp du grand capital, et puis la perspective de renverser tout l'ordre social capitaliste, la seule perspective pour offrir un avenir à l'humanité.
Je pense que nous allons reprendre, si vous en avez envie, le chant des travailleurs, le très joli chant des travailleurs, l'international, s'il vous plaît.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison comme dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Groupons-nous.